Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Il est 9h à Port-au-Prince et à New York.
Anne Contner.
Notre rendez-vous quotidien avec le continent américain. Nous irons d'abord en Haïti, où l'on attend dans une heure la mise en place officielle du Conseil présidentiel de transition. Nous serons en ligne dans un instant avec notre confrère haïtien, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Reportage à suivre aussi à l'Université de Columbia à New York, aux États-Unis. Alors que les rassemblements pro-palestiniens se multiplient dans les universités, les républicains accusent les étudiants et les enseignants qui se mobilisent d'antisémitisme. On parlera aussi, comme chaque jour, de l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Guadeloupe.
Oui, de passage en Guadeloupe, Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, a confirmé l'installation dans les ports des Antilles-Guyennes d'un matériel perfectionné de détection des produits stupéfiants.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Merci à tous d'être avec nous.
RFI Midi.
Avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Et pour commencer, ce discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe.
Une prise de parole ce jeudi matin au cœur de la prestigieuse université parisienne qu'est la Sorbonne. Un discours à 6 semaines des élections européennes, pratiquement 2 heures où le président français est revenu sur sa vision de l'Europe. Un discours fleuve durant lequel Emmanuel Macron a fait part de ses craintes et de ses ambitions pour le vieux continent. Il a notamment expliqué, je cite, que l'Europe telle qu'on la connaît pouvait mourir. Il appelle à un sursaut des 27 pour bâtir une Europe puissante et une défense crédible. Au menu donc les dossiers de l'indépendance, du changement climatique, des frontières, mais aussi sur la stratégie commerciale de l'UE face aux géants que sont la Chine et les États-Unis.
La simplification, c'est donc plus de marché unique, c'est lever les règles qui sont autant de frontières entre les 27 pour permettre d'avoir pour nos start-up tout de suite un marché domestique qui est le marché européen. Parce que sinon c'est un vrai désavantage compétitif par rapport à une start-up chinoise ou américaine. Nous avons cette force, c'est notre marché intérieur, c'est 450 millions de consommateurs. Marché unique, c'est un choix de simplification. Mais il nous faut en quelque sorte mettre aussi fin à l'Europe compliquée. Il faut bien le dire. Nous avons bâti des réglementations utiles qui donnaient des jalons, des repères, des caps, mais nous avons aussi parfois été beaucoup trop dans le détail.
Voilà un extrait de ce discours d'Emmanuel Macron ce jeudi à la Sorbonne à Paris. Et vous pouvez d'ailleurs en retrouver les principaux temps forts, les analyses, les décryptages, mais aussi les différentes réactions sur notre site RFI.fr. Et réaction justement à l'instant du chancelier allemand Olaf Scholz. Il estime que ce discours contient de bonnes impulsions pour que l'Europe reste forte. Fin de citation.
Tout à l'heure, Emmanuel Macron a évoqué la Chine dans son discours et notamment sa politique commerciale, Stéphane.
Un sujet aussi évoqué par Anthony Blinken en déplacement à Pékin. Le chef de la diplomatie américaine qui est arrivé ce jeudi matin dans la capitale chinoise. Objectif de cette visite, des rencontres avec des responsables chinois et notamment renforcer les relations bilatérales encore précaires entre Pékin et Washington, mais aussi s'assurer des règles du jeu équitables pour les entreprises américaines.
Les États-Unis qui continuent d'étudier le retrait de leurs troupes du Niger.
Et ça se précise hein, petit à petit, Anne. Après l'annonce en fin de semaine dernière que ce principe était validé, une réunion sur les modalités de départ se déroule aujourd'hui à Niamey. C'est en tout cas ce qu'annonce le département d'État américain, Guillaume Nodin.
Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, c'est ce qui commence aujourd'hui à Niamey. Côté américain, c'est l'ambassadrice au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le général de division Ken Heckman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui rencontrent les membres du CNSP. Et ce n'est qu'un début. La semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent se tenir dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, les États-Unis sont fiers de la coopération de sécurité avec le Niger au fil des ans. Toutefois, les discussions depuis juillet 2023 n'ont pas permis de trouver un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération. En revanche, le partenariat entre le Niger et les États-Unis va se poursuivre dans d'autres domaines d'intérêt commun. Le secrétaire d'État adjoint américain est annoncé dans les prochains mois à Niamey pour en parler, mais les soldats américains, eux, vont partir. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'actualité ce jeudi marquée également par cette offensive d'Israël sur le sud du Liban.
L'agence officielle libanaise et une source du Hezbollah font état d'une frappe au drone ce jeudi matin contre un camion dans l'est du Liban faisant un blessé. La situation au Proche-Orient qui mobilise également les étudiants américains. 93 personnes interpellées hier mercredi lors d'une manifestation sur le campus de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Manifestation organisée dans la foulée de plusieurs rassemblements étudiants pro-palestiniens aux États-Unis. Et justement, le ténor républicain Mike Johnson estime qu'un virus de l'antisémitisme se propageait. Il n'exclut pas d'appeler Joe Biden à déployer la garde nationale pour disperser les participants à ces rassemblements. Des rassemblements également hier en soutien au rappeur iranien Toumaï Salihi, condamné à mort. Il avait soutenu les manifestations qui avaient suivi le décès en septembre 2022 de la jeune Mahsa Amini en Iran, arrêtée pour mauvais port du voile. Mais finalement, il semblerait que la justice iranienne fasse marche arrière, Siavaj Ghazi.
Dans un communiqué publié ce jeudi, la justice iranienne a affirmé que le rappeur pouvait faire appel et même en cas de confirmation de sa peine par la Cour suprême, la commission de la justice chargée des mesures de grâce pourrait réviser cette peine. Le communiqué ajoute que le rappeur s'était repenti et avait coopéré avec la justice, ce qui lui a assuré une réduction de peine. Toumaï Salihi est emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation. À l'époque, il avait appelé les Iraniens à combattre le pouvoir et à la sédition dans de nombreuses chansons partagées sur les réseaux sociaux. Le tribunal révolutionnaire d'Ispahan a condamné Toumaï Salihi à la peine de mort pour propagande contre le pouvoir et appel aux émeutes. Ce verdict a été prononcé dans un contexte durcissement des mesures contre les femmes mâles ou non voilées avec de nombreuses arrestations d'Iraniennes par la police. Siavaj Ghazi, Téhéran RFI.
Direction la Bolivie, à présent, où la loi de lutte contre les violences de genre est au centre des débats depuis maintenant plusieurs jours. Une sénatrice du MAS, du MAS, le parti au pouvoir, cherche à modifier cette loi qu'elle qualifie d'anti-homme car elle donnerait trop d'importance à la parole des femmes. Des déclarations qui font bondir de très nombreuses organisations de droits des femmes pour qui modifier cette loi serait un véritable retour en arrière. Correspondance de Nils Sabin à La Paz.
En Bolivie, 70% des femmes ont déjà été victimes de violences sexuelles ou physiques dans leur vie, et une femme sur trois avant ses 18 ans. D'où le vote en 2013 d'un texte ambitieux pour lutter contre ces violences, une loi qui donne une importance toute particulière à la parole des femmes, mais qui est remise en question par la sénatrice Patricia Arce. Selon elle, il s'agit d'une loi qui permet aux femmes de faire de fausses dénonciations, des propos repris par le président du Sénat, qui a jugé que cette loi détruisait des familles.
Cette initiative est un retour en arrière et un véritable attentat contre le droit des femmes à l'accès à la justice.
Monica Baya, coordinatrice nationale de l'Alliance Libre sans violence.
Ça ne résout pas le problème et ça compromet la protection des femmes qui portent plainte.
Plus d'une centaine d'organisations ont dénoncé la proposition de loi. Pour elle, le véritable problème n'est pas là. C'est ce qu'explique la sénatrice d'opposition, Andrea Barrientos.
La réalité en Bolivie, c'est une réalité machiste avec beaucoup de violences contre les femmes. Alors oui, il peut y avoir de fausses dénonciations, mais c'est au personnel de justice d'y faire face. Malheureusement, ils ne sont pas formés pour. Des tribunaux et des postes de procureurs spécialisés devaient être créés, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas.
En 10 ans, seulement 5% des plaintes liées à cette loi se sont terminées par des condamnation. Nils Sabin, La Paz, RFI.
À La Paz, où il est 9h08, 15h08, ici à Paris. Tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Anne Cantner.
Merci Stéphane Genest.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
C'est le jour J en Haïti, la prise de fonction du Conseil présidentiel de transition. L'événement, bien sûr, fait la une de la presse. Nous sommes en ligne avec le rédacteur en chef du grand quotidien haïtien, Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
En fait, le Conseil présidentiel de transition a déjà été officialisé.
Oui, tout à fait. Le Conseil a prêté serment ce matin. Les 9 membres étaient au Palais national. Cela s'est passé en toute discrétion, dans un système de sécurité adéquat. Et il n'y avait pas beaucoup de monde et ils sont en train de se diriger actuellement vers la villa d'accueil, le siège de la primature haïtienne, pour les discours et pour une cérémonie officialisant la prise de fonction. Mais ils ont bien prêté serment au Palais national au Champ de Mars et ensuite le Conseil aura à faire ses élections et présenter aujourd'hui le coordonnateur du Conseil.
Donc ça, c'est pour la suite de la journée, avec une cérémonie donc qui était attendue au siège de la primature. Franz, dans votre éditorial, vous résumez la passation de cette manière. Le conseil présidentiel de transition constitué par Zoom remplace le gouvernement Henri, né sur Twitter.
Tout à fait. Il faut dire que ces deux régimes de gouvernement en Haïti se sont passés loin de la population. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'acclamation populaire. C'était le cas déjà pour Ariel Henry, qui avait été nommé Premier ministre deux jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quand il a fini par prendre fonction, c'est un tweet du core group. Le core group, c'est l'ensemble des ambassadeurs les plus impliqués dans la situation haïtienne qui avait tranché entre lui, Ariel Henry nommé par Jovenel Moïse, et Claude Joseph, qui était le dernier Premier ministre en date de Jovenel Moïse. Et aujourd'hui, ce conseil qui prend fonction, lui a été créé, a pris naissance sur Zoom, parce que les réunions entre la communauté internationale et les parties prenantes haïtiennes de la Jamaïque et en Haïti, tout cela se passait par Zoom. Et même le conseil, pendant plus de mois, a travaillé avant tout par Zoom, parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour que les gens se retrouvent dans une salle à un endroit précis. C'est la technologie, c'est la modernité, mais c'est surtout l'absence de la population haïtienne dans ce qui se passe et qui concerne son avenir. La cérémonie de prestation de serment au Palais national et en circuit fermé, c'est aussi le fait que la population n'est pas impliquée dans tout ce qui se passe.
Franz, vous rappelez aussi que la priorité, ce sera de rétablir la sécurité. C'est pour ça, comme pour marquer un symbole assez fort peut-être, que le Conseil présidentiel de transition est d'abord allé au Palais national, mais il ne pourra pas y travailler.
Bon, pour le moment, et ça va prendre un peu de temps, une semaine, quelques jours, pour que la sécurité soit rétablie, parce qu'il faut que quelque chose se passe. Mais en même temps, aller au palais en catimini pour faire la prestation, c'est reconnaître qu'il y a un problème de sécurité. Ne pas pouvoir inviter les diplomates, la société civile haïtienne et les invités des membres du Conseil au Palais national, c'est reconnaître qu'il y a un problème de sécurité. La sécurité, c'est le problème principal qui induit les problèmes humanitaires, les problèmes alimentaires, les problèmes économiques. Les écoles sont fermées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les gens sont en train de perdre leurs emplois. Ils sont en train de fuir la capitale pour aller en province ou pour partir vers l'étranger. Tout ça, c'est la sécurité. Et c'est la première tâche qui incombe au Conseil et présidentiel de transition, c'est d'essayer de rétablir un minimum de sécurité pour que les gens recommencent à vaquer à leurs occupations.
Alors, face à la violence de ces gangs, et à l'insécurité dont vous parliez, la commission de désarmement appelle dans votre journal à une trêve, tout en déplorant le manque de moyens et le manque de soutien de la part du gouvernement sortant.
Cette commission avait été instituée par Jovenel Moïse en reprenant un modèle qui avait déjà fait ses preuves en 2006. Malheureusement, depuis que cette commission existe, la commission n'a jamais reçu de moyens, ni de Jovenel Moïse lui-même, ni d'Ariel Henry. Il faut dire que cette commission, c'est une interface, c'est d'anciens militaires, c'est d'anciens gens qui étaient impliqués dans la sécurité, à qui on a demandé de parler aux gangs, aux fauteurs de troubles. Mais comme il l'explique lui-même dans cet article, pour parler aux gangs, pour leur demander de faire quelque chose, il faut leur promettre quelque chose en retour. Et il explique que pour le moment, les acteurs politiques ne se sont jamais décidés à comment parler aux gangs et que proposer aux gangs. Il explique aussi qu'en catimini, à chaque fois, les acteurs politiques ont leur propre conversation avec les gangs et cela fait échouer toutes les tentatives de médiation, toutes les tentatives de réinsertion.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Donc le conseil présidentiel de transition, d'abord installé en tout petit comité au Palais national avant de rejoindre la villa d'accueil, le siège de la primature, pour une cérémonie officielle, formelle, avec un peu plus de monde, cérémonie qui était attendue et annoncée déjà depuis plusieurs jours. On suivra tout cela avec notre correspondante sur place.
RFI Midi, Anne Contner.
Une nouvelle journée sous tension commence aux États-Unis où les blocages d'universités se multiplient, les opérations de police aussi. À Washington, à Boston, à Austin ou à Los Angeles, les étudiants défendent la cause palestinienne. La droite républicaine les accuse d'antisémitisme. Le campus de la célèbre université de Columbia à New York est au cœur du mouvement. Les étudiants y ont installé des tentes et ils ont reçu hier la visite du chef de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, arrivé sous les huées. Notre correspondante Loubna Anaki était sur place.
Everybody here has the right. right to be here.
Nous avons tous le droit d'être ici, crie cette étudiante. À côté d'elle, une grande banderole affiche ce message en rouge, noir et vert. Bienvenue à l'Université populaire pour la Palestine. Sur la pelouse centrale de Columbia, les étudiants ont installé des tentes, des drapeaux et des pancartes. Ils sont quelques centaines à protester contre la guerre à Gaza et réclament la suspension de tout lien entre leur université et Israël.
L'université n'a pas répondu à nos demandes avant notre mobilisation. Donc, pour nous, c'est un moyen pacifique de leur faire comprendre qu'on est là, qu'on restera là et qu'ils doivent nous écouter.
Ma tante est tout au bout. Catherine Elias a 24 ans et suit un programme de master en relations internationales à Columbia. Elle dort ici depuis le premier jour du mouvement, mercredi 17 avril, et fait aussi partie de la centaine d'étudiants arrêtés par le NYPD ce soir.
En tant qu'étudiants, c'est bouleversant et terrifiant. Notre campus nous assure tout le temps que notre sécurité est une priorité. Or, la direction a brisé une règle qui était en place depuis plus de 60 ans et elle a lâché la police sur nous. Ils continuent de menacer d'appeler la police pour démanteler ce camp.
Coming in and sweeping this camp as well.
Une intervention policière qui a été vivement critiquée par une grande partie des professeurs et des membres de l'université.
We gather as a faculty coalition.
Cette semaine, 400 d'entre eux, tous habillés en toge universitaire officielle, sont venus apporter leur soutien aux étudiants pro-palestiniens.
La décision de la présidente d'envoyer des policiers en tenue anti-émeute contre une manifestation pacifique est non seulement sans précédent, elle est injustifiable, disproportionnée et dangereuse. Heureusement que personne n'a été blessé.
Ils menacent désormais de voter une motion de défiance et réclament la démission de la présidente. La direction, elle, évoque le règlement intérieur ainsi que des accusations d'antisémitisme pour justifier ses décisions. Certains étudiants juifs disent ne plus se sentir en sécurité sur le campus. Mais les organisateurs, parmi lesquels figurent des associations juives, rejettent ces accusations. Jamie, étudiante juive pro-palestinienne, tient à préciser que leur mouvement est contre la politique de l'État d'Israël.
Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas désormais assez d'archives sur des manifestations pro-palestiniennes de mouvements comme les rabbins pour un cessez-le-feu ou les voix juives pour la paix. Il faut faire une distinction claire entre sionistes et juifs parce que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs.
Cette situation en tout cas crée des tensions sur le campus mais aussi à l'extérieur. Des centaines de personnes manifestent régulièrement en soutien aux étudiants. Daphné est une ancienne de Columbia.
Je dois les soutenir parce que c'est notre tradition. Il y a 50 ans, j'étais là pour manifester contre la guerre du Vietnam et aujourd'hui, je manifeste pour les Palestiniens.
En face, Johan, dont le fils a rejoint l'armée israélienne, est venu avec une dizaine de personnes, drapeaux israéliens à la main, demander l'expulsion des étudiants.
Il faut envoyer la garde nationale pour les virer du campus.
Pour le moment, la direction dit être en train de négocier avec les étudiants pour évacuer le campement. Elle dit se donner encore 48 heures avant de décider s'il faut à nouveau faire appel à la police. Loubna Naki, New York, RFI.
Et l'université de Columbia n'est pas la seule concernée, loin de là. On a même vu des scènes de chaos à l'université d'Austin, au Texas. Et ça fait la une des journaux américains, Blaise Jounaïdi.
Oui, le rassemblement se voulait pacifique. Organisé par le Palestine Solidarity Committee, il prévoyait des conférences et des ateliers artistiques, selon l'agenda initial, souligne The Houston Chronicle. La police du campus, elle, semblait disposée à négocier, mais ses efforts ont échoué dès la première heure, résume le Texas Tribune. En tout, plus de 50 personnes, étudiants, journalistes, ont été arrêtées, selon le quotidien Austin American Statesman. Une réponse policière saluée par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a plaidé pour l'expulsion des étudiants participant, selon lui, je cite, à des manifestations haineuses et antisémites. Ce même gouverneur avait publié un décret ce mois-ci pour exiger que les universités révisent leur politique en matière de liberté d'expression afin de punir ce qu'il décrit comme la forte augmentation des discours et actes antisémites sur les campus, rappelle le Texas Tribune. Pour une enseignante présente lors de la manifestation interrogée dans ce journal, l'envoi des forces de l'ordre menace la liberté d'expression là où elle devrait être la plus libre, une université publique.
Police contre manifestants et la presse évoquent le spectre du mouvement anti-guerre de 1968.
Les photos en noir et blanc sont ressorties des archives dans le New York Times. On voit la foule des jeunes manifestants réunis à l'occasion de la Convention nationale démocrate cette année-là. C'était contre la guerre au Vietnam. Des manifestations de masse qui ont été violemment réprimées par la police. Tout cela recommence, estime l'éditorialiste Charles Koop. Comme lors de la première guerre télévisée, celle du Vietnam, les jeunes la suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et beaucoup sont horrifiés par ce qu'ils voient. Or, il semble y avoir le sentiment dans les équipes de campagne de Joe Biden qu'elles peuvent simplement attendre que les passions finissent par s'estomper, poursuit l'éditorialiste. En août prochain, à la Convention démocrate, des manifestations auront lieu pour s'opposer à la guerre, prévient-il. Excusez-moi.
C'est de ma faute. Je suis un petit peu perdue dans mes feuilles, Abla. Vous nous parliez donc de ce qui se passe actuellement, de ce spectre qui est évoqué par la presse, de ce qui s'était passé à la fin des années 60. Et la presse évoque association de malfaiteurs, manœuvres frauduleuses, falsification des crimes qui sont passibles de la prison. On parle aujourd'hui de Donald Trump. 7 de ses associés en sont inculpés dans l'État de l'Arizona.
Oui, une toute autre affaire. Effectivement, Anne, parmi ses inculpés dans l'État de l'Arizona, le dernier chef de cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche, Mark Meadows, et 6 assistants ou avocats qui ont travaillé sur sa campagne, dont Rudolph Giuliani, nous apprend le Washington Post. Plusieurs de ces inculpés le sont déjà dans d'autres États, dont la Géorgie. Trump lui-même est cité comme co-conspirateur, mais sans être inculpé. En Arizona, ces 7 associés sont accusés d'avoir essayé d'attribuer des grands électeurs de l'État à Donald Trump au lieu de Joe Biden, qui a remporté l'État à l'arraché. Des crimes passibles d'une peine de 5 ans de prison au maximum, rappelle le Washington Post.
Dans le viseur de la procureure générale Chris Mays, les 11 élus locaux qui se sont fait passer pour de grands électeurs de l'Arizona.
Ces 11 élus du Parti républicain s'étaient réunis le 14 décembre 2020 et avaient publié sur les réseaux sociaux des vidéos d'eux en train de voter pour Donald Trump, rappelle USA Today. Tout ça était faux. Une affaire déjà dans le collimateur d'une commission d'enquête du Congrès américain. Dans cet état clé pour l'élection présidentielle, le Parti républicain s'est déchiré entre ceux qui soutenaient le mensonge de Trump et les autres, explique USA Today. Le quotidien Arizona République savoure, lui, cette deuxième défaite des républicains de la journée. La première, c'est le vote hier à la Chambre des représentants de l'Arizona pour annuler l'interdiction de l'avortement. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, un texte de 1864 interdisant la quasi-totalité des avortements avait été jugé applicable par la Cour suprême de l'État, provoquant un tollé national. 3 élus républicains se sont joints aux démocrates pour voter l'annulation de ce texte hier. L'avortement, un enjeu central de la campagne dans l'Arizona, État hautement disputé. L'éditorial de l'Arizona République se fait l'écho de la lassitude des électeurs. Il serait temps que nos patriotes autoproclamés passent enfin leur journée au tribunal pour expliquer comment ils ont essayé de rendre sa grandeur à l'Amérique en sapant la démocratie.
Abla Jounaidi pour une revue de presse un peu massacrée par ma confusion. J'en suis désolée, cette revue de presse sera disponible sur internet RFI.fr.
RFI Midi.
Au Brésil, les peuples indigènes se mobilisent pour défendre leurs droits, comme chaque année depuis 20 ans. Des milliers d'entre eux sont rassemblés toute cette semaine à Brasilia, dans le cadre du campement Terre Libre, pour des débats, des manifestations et des danses traditionnelles. Les peuples autochtones se battent pour la protection de leurs terres. Évoqué pendant la campagne électorale par Lula, le président, qui n'était encore que candidat, avait promis à ce moment-là de créer des réserves. Mais la mise en œuvre n'est pas si simple, Marine de la Moissonnière.
Depuis le retour au pouvoir de Lula, seules 10 nouvelles réserves ont été créées. Insuffisant, estiment les manifestants, qui demandent au gouvernement de faire plus. Terry Itaoka, indigène de 16 ans, rencontré par Raquel Miura de la rédaction en brésilien de RFI.
Je veux la paix, que les enfants soient heureux dans leur village, qu'ils puissent jouer sans crainte. Je pense que c'est un peu lent, un peu difficile pour le mouvement, parce que nos terres n'ont pas encore été délimitées. Nous venons donc ici pour nous battre, pour avoir un meilleur avenir, pour qu'ils ne nous enlèvent pas nos terres.
Problème, le puissant secteur de l'agronégoce et ses alliés conservateurs qui dominent le Parlement sont contre la création de ces réserves. Et puis ces terres, elles sont souvent occupées illégalement. Marina Silva, ministre de l'Environnement.
Il faut chasser complètement les envahisseurs des terres indigènes, qu'il s'agisse des terres Munduruku, des terres Kayapo, des terres Yanomami, où l'on trouve des exploitations minières ou forestières illégales. Nous avons déjà réussi à expulser les envahisseurs des terres indigènes de l'État. ethnie à Piterewa, ce n'est qu'un début. Nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant et nous devons travailler dur pour que les peuples indigènes du Brésil obtiennent justice.
Ces réserves ont un double intérêt. Elles permettent de protéger le mode de vie traditionnel des autochtones et d'endiguer la déforestation de l'Amazonie. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Marine de la Moissonnière, il est 13h25 en temps universel. Et on retrouve nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
10 millions d'euros pour lutter contre le trafic de stupéfiants en Outre-mer, annonce faite hier en Guadeloupe par le ministre des Comptes publics.
Thomas Cazenave s'est rendu hier donc dans la zone de fret du port de Jarry où il a confirmé, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait lors de son passage en Martinique, l'installation d'un matériel perfectionné de détection des substances illégales. Reportage Alexandre Houda.
Drogue, armes, articles contrefaits ou encore cigarettes de contrebande, les découvertes des douaniers sont souvent aléatoires, avec une forte proportion de conteneurs en provenance ou ayant stationné dans des pays d'Amérique centrale et du Sud. La Guadeloupe est sur la trajectoire privilégiée des trafics de drogue. Le gouvernement entend bien donner les outils nécessaires pour en freiner la circulation. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics.
Ce que l'on va faire d'ici la fin de l'année, on va installer un scanner ici sur cet espace qui va nous permettre d'augmenter considérablement le nombre de conteneurs contrôlés. Et ce qui permettra, vous l'avez vu, au lieu d'être dans le contrôle visuel, de regarder à travers les images s'il y a des produits organiques et des produits typiques du, par exemple, la cocaïne, d'autres produits stupéfiants. Et sur l'ensemble des Antilles-Guyane, on renforce la capacité d'action de la douane.
Avec plus de 100 kilos de cocaïne saisie et 47 personnes arrêtées pour avoir tenté de faire passer de la drogue en Guadeloupe l'année dernière, la lutte contre le trafic continue de s'intensifier.
Direction la Martinique avec un autre genre de trafic. Nous sommes jeudi et c'est jour de tirage. À l'île de la Réunion, on dirait c'est jour de pouce. Explication. Depuis un an, un certain nombre de jeunes martiniquais se donnent rendez-vous sur la 4 voies près de l'aéroport Aimé Césaire pour des courses sauvages. Reportage Aude Souldidas.
On a déjà créé des associations de WEN. On a déjà essayé de négocier avec la préfecture de la Martinique. Pour l'instant, on va dire que c'est sans succès.
Ils sont plusieurs centaines de jeunes, entre 18 et 25 ans. Certains nous ont avoué prendre le volant sans permis. Le rendez-vous est donné le jeudi. Leur système est bien rodé, circuit à contresens du radar et début des courses après les rondes des policiers, comme nous l'explique ce passionné.
On est passionné, on est envoûté par cela aussi. C'est bien comme ça peut être malheureux pour certains. On n'est pas insouciant, on n'est pas inconscient. Mais on le fait quand même, car c'est toujours comme ça. On est toujours attiré par l'inaccessible.
Une patrouille de police de nuit guette ces rassemblements et verbalise quasi systématiquement. Les courses sauvages sont punies d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi qu'un retrait de 6 points sur le permis de conduire.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci. De la musique pour terminer cette édition, Flavia Coelho et son nouveau single qu'elle présente ainsi. Faire face aux épreuves de la vie, se reconstruire sans cesse, prendre soin de ses blessures, croire en soi et à la femme qui se dévoile au fil du temps. Une affaire de résilience.
Caminhei a duras penas. Na ladeira da ilusão, viu? Um dever, questão de honra, sobreviver. Pra que perder a razão? Eu me prometi nunca mais. Adicionei ritos e lendas, neutralizei marcas e fendas. Defini um mundo novo à base de oração, é.
La voix de Flavia Coelho pour terminer RFI Midi, édition réalisée aujourd'hui par Rémi Vivien et Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur RFI dans quelques secondes de vive voix avec Pascal Paradou. Et nous, on se retrouve demain à 11h, temps universel.
Pretendo me perdoar, quem sabe poder ser feliz. Cicatriza marcas feridas, elimina dores sofridas, define um novo mundo a partir.